Imaginez ces hommes braves qui sont toute la journée dans un camp et ont peur de faire même 200-500 mètres en dehors du camp, de peur d'être tués. Les femmes se disent qu'il vaut mieux pour elles être battues ou même violées en allant chercher du bois autour du camp, plutôt que de laisser leur mari être tué et les laisser toutes seules. C'est dramatique de voir un homme responsable de tout un village qui a réussi à organiser un camp de déplacés, qui fait tout pour sa population, qui développe une meilleure hygiène, qui essaie d'envoyer les enfants dans une tente improvisée qui sert d'école. Cet homme fort, solide, musulman, croyant, qui arrive avec moi dans son village détruit, brûlé, qui arrive là après un an et demi et qui se met à pleurer en voyant sa hutte brûlée, détruite, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi ces milices ont même détruit les stocks de nourriture. On voit les restes brûlés. Et cette personne responsable de tout un village ne peut pas dire à sa population « Revenez dans le village, venez ». C'est impossible, le traumatisme est trop profond.
Psychologiquement, ça va laisser des traces, mais est-ce que toutefois il y a une forme d'espoir ?
Le seul espoir, c'est de pousser la communauté internationale à financer l'Union africaine, qui devrait envoyer des soldats dans beaucoup plus de villages, sortir des villes et protéger les personnes déplacées qui seraient prêtes à retourner dans leur village. Ça se passe maintenant déjà un petit peu. Le but est de couvrir tout le Darfour jusqu'en mars 2006. Jusqu'à maintenant, l'Union africaine n'a pas suffisamment de pétrole pour organiser les vols nécessaires pour déployer les soldats.
Une forme de passivité selon vous, ou comment vous expliquez ce phénomène de la part de la communauté internationale notamment ?
Pour revenir au contexte politique, il faut comprendre qu'un accord politique a été signé en janvier 2005, cette année, entre le gouvernement du Soudan et les Sud-Soudanais du SPLA. Et c'était le but principal de la communauté internationale, de mettre fin à cette guerre avec des aspects de génocide entre le Nord et le Sud, pour simplifier. Les rebelles du Darfour avaient commencé en petit nombre à faire parler d'eux-mêmes pour participer aux négociations. Ce qu'ils souhaitaient obtenir, c'était une meilleure représentation politique et des retournées économiques de développement. Donc cette demande politique s'est vue avoir comme réponse des massacres, des attaques contre les rebelles, mais des massacres de la population civile.
Est-ce que vous avez d'autres images qui seraient révélatrices, vraiment, qui parleraient vraiment à l'auditeur ? On a l'impression qu'il y a un décalage entre ce que disent les médias et une situation vraiment qu'on voit avec des yeux.
Le traumatisme des personnes déplacées est très fort par rapport à des hommes à cheval ou en chameau qui ont entouré les villages et les ont détruits. Et maintenant, les gens, dès qu'ils voient un homme sur un chameau, dit « c'est un Janjaweed, un tueur ». Alors que certaines communautés voisines continuent de vivre en tant que nomades ou semi-nomades. Et donc, il va falloir recréer une confiance entre les différentes communautés. C'est peut-être une lueur d'espoir que d'apporter un peu d'aide économique.
Quelques mots peut-être sur la situation religieuse.
Le Darfour est peuplé de gens croyants, musulmans. Ils ne voient aucun problème au fait que Caritas est une organisation catholique et ACT est la confédération
des
organisations
des
protestantes et orthodoxes. Non, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas un conflit religieux.
C'est un
conflit basé sur une propagande raciste et sur des intérêts politiques, géopolitiques d'une minorité.